Le huitième soleil, par Richard Keller, chapitre 44. Les conclusions des investigations tardèrent à venir. Gilles et Sagol piaffaient d'impatience. Ils voulaient confirmer au plus vite leur intime conviction. Tous les recoupements les ramenaient à Rodrigue Bonifay, et son nom revenait comme un leitmotiv. Toutefois, il leur manquait la preuve indiscutable de sa présence dans la maison d'Isabelle Malardeau. Lorsque les résultats arrivèrent enfin entre leurs mains, ils ne furent pas déçus. Le laboratoire avait réalisé des prouesses avec les éléments qui lui avaient été confiés. Sagol cria à la cantonade que la brigade scientifique de la gendarmerie méritait les félicitations du jury. Il est vrai que les spécialistes qui travaillent sur des fragments de tissu ou de matière accomplissent des prodiges dont ne se doute pas le commun des mortels. Malgré un langage très technique, les deux hommes, rompus à ce genre d'exercice, déchiffrèrent les révélations du rapport. Les empreintes relevées sur le piano et sur le tableau de bord de la voiture d'Isabelle Malardeau parlèrent. Elles confirmèrent qu'il s'agissait bien de celle de Rodrigue Bonifay. Le regard qu'échangèrent les deux amis en dit long sur leur complicité professionnelle. Ces deux-là se comprenaient à demi-mot. Ils savaient depuis un moment qu'ils allaient dans la bonne direction. Mais le plus dur restait à faire. Il fallait mettre la main sur l'assassin et l'empêcher de continuer son œuvre funeste. Page après page, les révélations corroborèrent la culpabilité probable du suspect numéro 1. En outre, l'ADN prélevé sur les chaussettes constitua l'élément déterminant. Il était identique à celui qui avait été retrouvé sur le piano, ainsi que sur la boucle d'oreille de la défunte, et il appartenait à Rodrigue. Gilles et Sagol ne se contentèrent pas des conclusions du laboratoire. Maintenant, ils voulaient comprendre. Dans leur métier, la première mission consistait à résoudre des enquêtes et à mettre au plus vite les criminels hors d'état de nuire. Ils l'accomplissaient au mieux de leurs compétences, et ils considéraient que la compréhension du raisonnement de l'assassin s'avérait indispensable. Appréhender l'univers psychologique des meurtriers permettait d'élucider des énigmes apparemment insolubles. Cette affaire ne dérogeait pas à cette règle, et ils entreprirent d'endosser le costume de Rodrigue Bonifay. Désormais, les deux hommes possédaient suffisamment d'éléments pour affirmer avec certitude que le dernier compagnon d'Isabelle Rivet se trouvait mêlé aux deux meurtres. Les deux comparses décidèrent de joindre le commandant Litchi afin de l'informer des résultats de l'enquête côté français. Ils espéraient aussi que les Italiens avaient progressé grâce à des témoignages supplémentaires. La conversation fut chaleureuse, comme à l'accoutumée, mais le responsable transalpin ne put apporter de précision de nature à renforcer la culpabilité du présumé coupable. Sagol eut le sentiment que ses collègues ne consacraient plus à ce dossier toute l'énergie des jours précédents. Ils perçurent bien l'état d'esprit de leur homologue. Le commandant Litchi considérait, à juste titre, qu'il s'agissait d'une affaire franco-française dont seule l'incursion dans le territoire vénitien avait amené les policiers italiens à enquêter. Il savait que Sagol et Gilles possédaient toutes les qualités requises pour mener l'équipage à bon port. Il fallait laisser la main aux Français et leur venir en aide à leur demande. Tout cela s'exprimait dans des non-dits. L'élégance primait sur toute autre considération.